RCF.
Bonjour à toutes et à tous. En ce grand week-end de la Toussaint qui commence, nous ne pouvons nous empêcher de penser à toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés un jour dans cette vie et qui, par leur union à Dieu et le témoignage vertueux de leur vie, sont devenus, aux yeux de l'Église et de Dieu, des saints, saints patrons et saints patronnes que le 1er novembre nous prierons et nous invoquerons. Une sainteté qui est notre vocation à tous, à moi, à mon invité, à vous qui nous écoutez, un invité d'ailleurs qui nous invite à suivre le souffle de l'Esprit. Je vous le présente d'ici quelques instants. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'Écho des Solutions ce samedi midi. Un Écho des Solutions qui précède le grand week-end de la Toussaint. Un magazine qui va être consacré au parcours d'un homme, d'un dirigeant engagé. Il s'appelle Hubert de Boisredon. Il est avec nous ici en studio, ou plutôt dans ses studios, puisque nous sommes dans ses bureaux à Nantes. Bonjour Hubert.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va tenter de décrire votre parcours que vous venez de coucher sur le papier dans un ouvrage qui s'appelle « L'esprit souffle, suis-le ». Itinéraire d'un dirigeant engagé aux éditions MAM. Vous êtes le PDG de la société Armor, qui est une société industrielle qui est basée à Nantes, avec plus de 36 sites à travers le monde, 2600 collaborateurs, avec un métier de cœur qui est celui du transfert thermique. Vous nous expliquerez peut-être un peu plus de quoi il s'agit. Et puis aussi des métiers de cœur. J'aime bien faire la différence entre le métier de cœur et le métier cœur de l'entreprise. Et on verra justement comment ces métiers de cœur prennent place dans la stratégie. Mais avant de commencer, il est toujours bon de faire un petit sommaire. Donc notre invité écho de cette semaine, et bien évidemment, ce sera vous. On parlera de l'actualité économique d'Armor. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'un serial entrepreneur. Il s'appelle Anthony Martin Smith. Il a un petit handicap. Il est déficient visuel depuis fort longtemps, mais c'est aussi un serial entrepreneur. Il a reçu le prix H-Up d'entrepreneur de l'année en 2020. Il nous témoignera de son parcours et si oui ou non, pour lui, le handicap est un frein ou plutôt un accélérateur. Alors on va commencer tout de suite avec vous, Hubert de Boisredon. Vous êtes notre invité écho de cette semaine. On se retrouve tout de suite après ça pour évoquer justement l'actualité économique de votre groupe.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, le temps d'une petite virgule et on retrouve Hubert de Boisredon. Donc vous êtes dirigeant d'Armor depuis 2004. En 2014, vous rachetez un fonds d'investissement qui en était le propriétaire avec vos collaborateurs et vos salariés, l'ensemble du groupe. Ça fait près de 17 ans maintenant que vous êtes à la tête de ce groupe. Début octobre, une actualité un peu fracassante dans le monde économique français, puisque une ETI française qui rachète son concurrent américain, c'est assez rare. Ça va consolider le groupe à hauteur de près de 400 millions d'euros. Comment on aborde un concurrent, le rachat d'un concurrent qui, il y a quelques années, si j'ai bien compris, déjà voulait vous racheter?
Effectivement, IMAX est le concurrent historique d'Armor sur une niche de marché qui sont les consommables d'impression, dits transfert thermique, pour imprimer tout ce que sont les étiquettes code-barre et l'information variable sur emballage. Donc c'est une application qui est clé parce que il s'agit de la traçabilité des produits, la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est essentiel. Armor a développé, on était numéro à peu près 3 ou 4 en 2002-2003. Et à ce moment-là, notre concurrent américain a souhaité racheter Armor. Moi, je suis arrivé en 2004. En fait, ça ne s'est pas fait. Et donc, j'ai eu mission de développer l'entreprise avec les équipes. Et la satisfaction, c'est que 17 ans après, c'est l'inverse qui se produit. C'est nous qui avons multiplié notre taille par 3. Et sommes 3 fois plus gros que notre concurrent américain et qui donc avons pu le racheter, ce qui nous fait devenir non seulement nous étions leaders en Europe et nous devenons leaders aux États-Unis et sur l'Amérique. Voilà, donc c'est le fruit d'un travail remarquable des équipes pendant 17 ans et c'est vrai que c'est, je crois, très encourageant pour l'économie et l'industrie française de montrer que surtout en sortie de pandémie de Covid, on peut encore saisir des opportunités stratégiques comme celle-là et consolider notre concurrent américain.
En quoi cette acquisition va être structurante pour le groupe Armor? Vous devenez leader mondial, mais quelque part vous rachetez, donc il y a quelque part aussi une part de dette qui se crée. Mais en même temps, c'est quelque chose qui, pour vous, est structurant, c'est-à-dire qu'en fait, on met Armor sur les rails pour les 10-20 ans à venir sans trop se soucier, j'ai envie de dire, des tempêtes qui peuvent arriver, même si une crise de 2008 peut survenir. Mais
voilà, oui. Si vous voulez, quand on est une entreprise de taille intermédiaire comme Armor, En fait, les menaces sont nombreuses. Il y a des concurrents américains, chinois, japonais, coréens, brésiliens. Et donc, ce qui est important à un moment, c'est d'avoir des assises assez solides pour résister à la concurrence mondiale et aussi pouvoir donner le ton, c'est-à-dire que nos produits deviennent la référence, que ce soit que nous puissions tisser des partenariats internationaux avec les grands fabricants d'imprimantes industrielles. Et en ce sens-là, bien que nous étions leaders en Europe, le fait de ne pas l'être aux États-Unis, qui est le plus gros marché du monde, si vous voulez, c'était un petit peu comme un manque. Mmh. Donc, d'un point de vue stratégique, il était clair depuis plus de 15 ans.
Et la Chine n'est pas concurrente sur ces marchés-là, étonnamment, parce qu'ils sont à peu près concurrents sur tous les marchés.
Les Chinois sont des concurrents extrêmement sérieux. Et c'est bien pour ça que ça faisait sens de s'allier pour être plus fort face à une concurrence émergente chinoise. Et de fait, le numéro 2 aujourd'hui sur ce marché est un Chinois.
Qu'est-ce que ça va apporter? Quels sont les enjeux pour Armor, pour l'entreprise?
Alors, cette acquisition est effectivement structurante parce que ça permet de créer une entreprise qui s'appelle Armor IMAC, maintenant, qui va pouvoir fonctionner de façon autonome, j'allais dire. Je viens d'ailleurs de recruter Christian Lefort, qui est un directeur général pour cette activité, qui était l'ancien directeur général d'Evolis, qui est une personne qui a une expérience américaine, qui a une expérience de direction générale, qui connaît parfaitement le monde de la traçabilité des produits. Donc, l'acquisition permet de structurer plus cette activité-là et aussi, d'une certaine manière, de permettre également aux autres activités de se structurer également. Donc, en fait, le groupe, globalement, devient à la fois plus complet, plus structuré, plus large, plus diversifié.
Aujourd'hui, sur le territoire français, Armor, c'est quoi ces enjeux à court et moyen terme?
Alors, Armor, comme entreprise industrielle, subit une conséquence indirecte de la pandémie. En fait, nous avons bien traversé la pandémie dans le sens où nous n'avons arrêté aucun de nos sites mondiaux, incluant le site industriel français de la Chevrolière. Nous n'avons arrêté aucun site pendant toute la période du Covid, ce qui est vraiment une chance. Maintenant, en sortie de pandémie, on va dire, toute l'industrie est pénalisée par deux choses, c'est les problèmes de matières premières. Et la deuxième chose, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre. Nous avons énormément de mal à trouver des opérateurs de production. C'est vrai en France, c'est encore plus vrai aux États-Unis, maintenant je le vois particulièrement. En fait, la reprise se fait de manière un peu chaotique. Mmh. Je ne parle pas du problème logistique des containers, si vous voulez. Les prix des containers entre la Chine et les États-Unis... C'était 2000 dollars il y a
container.
Encore deux ans. Aujourd'hui, ça peut monter à 10 000, voire 15 000 dollars.
C'est quoi les postes? On peut faire un peu de publicité. Hein. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie finalement de venir travailler chez Armor, les postes principaux que recruter, vous parlez d'opérateurs machines, opérateurs...
Alors vous trouverez tous les postes ouverts sur le site internet d'Armor, mais des opérateurs machines, des opérateurs de production, sont toujours utiles.
Sont toujours bienvenus.
On propose des belles perspectives de formation.
On parlera beaucoup de la question de la RSE, du développement durable dans le courant de cette émission. Vous rachetez un concurrent américain, c'est une culture différente, même si le développement durable est mondialisé avec l'agenda 2030 et les objectifs de l'ONU. Comment vous travaillez finalement cet esprit Armor pour le transférer dans une culture d'entreprise qui, elle, date aussi, donc il y a des ajustements à faire?
Oui, c'est une excellente question parce que Armor, comme IMAC d'ailleurs, sont nés au même moment d'une licence commune en 1983 que nous avions partagée avec un acteur japonais. Mais c'est une culture américaine et il faut déjà prendre conscience que c'est différent. Et je pense avec une vigilance et surtout éviter l'arrogance de notre côté. C'est pas parce qu'on est leader mondial et que nous rachetons notre concurrent américain qu'on a toutes les solutions, qu'on est bien meilleur, etc. Et tout l'enjeu, c'est de détecter chez eux ce qui peut nous faire progresser collectivement et d'arriver à une relation équilibrée. C'est pour ça que, notamment, nous avons choisi que le nouveau nom de l'entreprise serait Armor IMAC pour honorer aussi leur histoire.
Donc on fait une fusion des deux entités avec un nom commun. Aujourd'hui, et dernière question pour la partie éco, le gouvernement investit à force milliard une relance technologique, souveraineté numérique, souveraineté industrielle. Quelle part Armor prend dans ce dispositif? Et puis souvent, je vous ai entendu dire que chez Armor, on expérimentait pour un petit peu piquer au vif le législateur. Qu'est-ce qu'il faudrait imaginer encore de plus pour pouvoir vraiment répondre à cette volonté de souveraineté que la pandémie a mise à mal ou a révélée?
Je pense que la pandémie a montré qu'il fallait que la France regagne une souveraineté industrielle, que vous savez, le fameux fameuse phrase d'être une entreprise sans usine a fait beaucoup de mal d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment, il faut inverser cette tendance-là. Et donc déjà, nous avons misé sur la France comme site industriel principal. Le fait que nous soyons leaders dans ce métier clé de la traçabilité est indispensable. D'ailleurs, au passage, si vous voulez, quand au moment de la pandémie, tout s'est arrêté, sauf les biens alimentaires, pharmaceutiques et de première nécessité, l'État a compris que, en fait, Armor ne pouvait pas s'arrêter. Parce que s'il n'y avait pas de traçabilité de produits, il n'y avait plus de biens alimentaires.
Et vous deveniez une entreprise essentielle.
Et on a été déclaré entreprise essentielle pour la nation. Donc, être conscient de quels sont les métiers essentiels et que la France et l'Europe soient capables d'être indépendants est absolument clé. Donc je pense que le plan de relance doit s'orienter de cette façon-là, mais aussi sur d'autres enjeux comme ceux de la transition énergétique. Et effectivement, moi je n'arrête pas de solliciter l'État pour dire n'oubliez pas par exemple la filière photovoltaïque. Nous avons tout délaissé à la Chine, nous importons 98% des panneaux silicium de Chine, alors qu'il y a des innovations françaises d'entreprises comme la nôtre. Par exemple, nous innovons dans les films photovoltaïques souples, nous réinventons le panneau solaire, mais on a aussi besoin que ces innovations soient encouragées par l'État.
Merci beaucoup Hubert pour ce point sur l'actualité économique, la place d'Armor dans la France qui se relance. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après pour évoquer votre parcours de dirigeant engagé dans le monde de l'entreprise, dans votre famille, dans votre foi et dans votre foi chrétienne bien évidemment. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après.
Tombé du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. De la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tombé de sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages, trafiquant d'import. Comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur.
C'était Tombé du ciel, Jacques Ischelin, vous êtes sur RCF. On retrouve tout de suite Hubert de Boisredon pour l'écho des solutions, itinéraire d'un dirigeant engagé où plein de choses d'ailleurs lui sont tombées du ciel. On le retrouve tout de suite.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, Hubert de Boisredon, merci encore d'être présent dans l'écho des solutions pour votre ouvrage que vous venez de faire paraître aux éditions MAM, L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé. Alors, je vais rapidement rappeler votre parcours et vous me reprendrez si jamais je me trompe. Votre CV en soi, c'est quoi? Vous êtes issu d'une famille bourgeoise, catholique, qui était assez naturellement amenée à faire des hautes études, plutôt d'ingénieur, si on suivait un petit peu les traces familiales. Vous avez décidé un premier pas de côté en allant à HEC et faire de la finance internationale. Et puis, boum, patatras, New York. Vous suivez un semestre d'études là-bas. Vous rencontrez la misère du monde dans les rues de New York. Vous croisez Mère Teresa. Vous travaillez. Vous rendez disponible pour les Sœurs de la Charité. Et puis après, toujours à contre-courant, vous décidez de ne pas aller faire un service militaire traditionnel alors que le grand-père était général. Vous partez faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un VIE, un volontariat de service en entreprise. crise et vous rencontrez le Chili, la misère, mais aussi la création de la banque Qantigo, de microcrédit dans la dynamique du prix Nobel Mohamed Yunus, puis retour en France et là vous retrouvez le parcours traditionnel du chef d'entreprise ou du cadre, du haut cadre dirigeant chez Rodia, Rhône Poulenc. Partez en Asie, vous revenez, vous faites l'expérimentation des égos des manipulateurs qui composent un certain nombre, dans un certain nombre d'entreprises, on en retrouve un petit peu partout, et puis en 2004 vous rachetez Armor. Quand j'ai dit ça, en fait, je n'ai rien dit du tout de ce qui se trouve dans votre ouvrage, c'est simplement un résumé. Est-ce que j'ai fait quelques petites erreurs ou est-ce que vous voulez compléter ce que j'ai dit, Hubert?
Non, je crois que c'est assez juste. En fait, il y a vraiment trois parties dans ma vie après mes études. C'est la prise de risque de partir au Chili à un moment où ça se faisait pas trop pour des jeunes de sortie d'école de commerce, de partir en humanitaire ou en VIE comme ça. Et avec l'expérience de cette banque de microcrédit qui m'a fait découvrir l'entreprise sociétale avant qu'on en parle.
C'est ça, hein, c'était vraiment le tout début, voilà. Le tout début, mais vous mettez les pieds dans le plat assez rapidement et avec plaisir.
Oui, c'est que j'ai compris que la finance, en fait, pouvait changer des vies, pouvait contribuer à l'épanouissement des personnes quand elle était vraiment fondée sur la confiance. D'ailleurs, faire crédit, c'est faire confiance. Mmh. Et j'ai vu comment le microcrédit, en fait, permettait sur un quartier, quand on a permis le développement de 1 000, 2 000 micro-entreprises, c'est tout le quartier qui se transforme. Donc ça m'a vraiment éclairé. Alors qu'en fait, si vous voulez, moi, j'avais vraiment un problème quand j'ai fait mes études de commerce, c'est que j'enviais les médecins. Les médecins, je me disais, ils ont de la chance. Ils peuvent partir en Afrique, aider des personnes démunies. Leur métier a du sens. Mais moi, comment puisse donner du sens à un métier d'école de commerce?
On verra ça tout à l'heure. Je l'ai pas dit au début de cette émission, mais c'est pas la première fois que vous intervenez dans l'Écho des solutions. D'abord, vous aviez fait tout au début, dans les premières années, enfin même dans la première année, il y a 5 ans, on avait fait un portrait de vous. D'ailleurs, j'avais été très très embêté, j'avais été obligé de couper notre entretien. Je m'étais promis de faire un entretien plus long, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a 5 ans, lorsque je vous ai interviewé, vous aviez répondu avec simplicité, comme vous le faites aujourd'hui. Et pourtant, je sentais cette petite réserve. Aujourd'hui, après cet ouvrage, on a un sentiment, et d'ailleurs dans l'ouvrage, on le sent bien, une sorte de liberté intérieure, de lâcher prise. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez moins de timidité. Vous n'en avez jamais eu vraiment, mais vous avez moins de timidité à transmettre ce qui fait aujourd'hui le sens, l'unité de votre vie?
Oui, j'ai moins de timidité parce que je pense que c'est le fruit d'un chemin. C'est que j'ai toujours cherché à trouver un sens en cherchant une certaine cohérence de vie entre les différentes facettes de ma vie, que sont l'entrepreneur, que sont l'ami des autres ou celui qui a envie de... peut-être d'être attentif aux plus fragiles, et puis l'homme de foi, celui qui a été touché par Dieu, un peu gratuitement, et d'une certaine manière de me rendre compte que tout ça peut être un, et ça se traduit notamment par un certain style de management, par une certaine confiance et une espérance dans l'entreprise, et qu'au fond, en vivant tout ce que je suis de manière unifiée, d'abord ça me rend heureux, et je comprends aujourd'hui avec le temps que ça porte du fruit, et que ça n'empêche pas non plus d'être ambitieux et de vouloir que l'entreprise réussisse.
L'ambition n'est pas mauvaise, en fait. C'est l'orgueil qui est mauvais, qui est un péché. L'ambition n'a jamais été mise au rang du péché capital.
Non, je pense, oui, effectivement. Je pense que parfois, il y a pu avoir une réserve à dire, ah, si je dis que je suis ambitieux, c'est que je suis en contradiction avec ma foi, par exemple. Mmh. Mais bon, l'évangile des talents le dit bien. Je pense qu'il y en a, on a reçu certains talents, c'est pour les exercer. Toute la question, c'est de savoir pourquoi on le fait. Mmh. Est-ce que je vise la réussite de l'entreprise juste pour mon propre orgueil, pour dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire, que je suis au-dessus des autres, ou visant ma propre réussite, ou pour quelque chose qui transcende mon action et qui, par exemple, est de l'ordre de contribuer à faire que l'humanité aille mieux? Et ça, je pense que quand on donne du sens aux choses, à ce moment-là, l'ambition trouve sa direction, trouve son énergie. Et puis ça, voilà, ça arrache tout. Quoi.
Pour qui vous avez écrit ce livre? J'ai ma petite idée, mais pour qui vous l'avez écrit? Pour vous? Pour les entrepreneurs?
Alors, ce livre, j'ai hésité à l'écrire d'abord parce que c'est l'éditeur qui est venu me solliciter. Je me suis dit, écrire un livre sur mon parcours, est-ce que c'est pas trop autocentré? Est-ce que voilà, bon. Et puis, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, vous savez, votre témoignage, il est utile pour des jeunes, notamment des jeunes de 18 à 40 ans qui se posent des questions sur comment axer leur vie, qui ont pu faire des études ou pas, mais qui en tout cas se posent plein de questions. Quel est le but de ma vie? Est-ce que c'est de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est d'acquérir du pouvoir? Est-ce que c'est comment je gère mon ego là-dedans? Et puis cette quête de sens qui m'habite, le monde va mal, comment j'arrive à mettre de l'ordre dans tout ça? Et en fait, ce sont des questions que me posent très souvent des plus jeunes, mais aussi des contemporains, d'autres dirigeants. Et je me suis dit, autant expliquer comment humblement j'ai cherché.
Il y a un déclic, parce que les éditeurs, on sait ce que c'est. Ils ont besoin de publier des ouvrages. Ils voient un beau témoignage dans votre vie. Et c'est de fait un très beau témoignage que cet ouvrage. Mais qu'est-ce qui fait déclic? Qu'est-ce qui fait à un moment donné de dire, il a raison, je me mets derrière mon ordinateur et je commence à taper?
Alors, moi, ce qui a été le déclic, c'est ça a été en fait l'interview faite avec quelques jeunes où ils m'ont poussé en fait à dire quelle est ma source. Je me rendais compte, ils me disaient, mais alors vous pratiquez un management par la confiance ou la réussite d'Armor, qu'est-ce qui fait que, pourquoi? Et à un moment, je sentais que j'étais pas complètement vrai.
Ouais.
Si je ne déclarais pas, si je ne disais pas que tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je donne aujourd'hui vient de quelque part. Notamment de la rencontre des plus pauvres au Chili, de ces micro-entrepreneurs qui m'ont bouleversé, mais aussi de cette rencontre gratuite, surprenante, où Dieu est entré dans ma vie. Et en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui jusqu'à 18 ans, en fait, je m'efforçais d'être parfait. Je voulais vraiment réussir.
Le milieu familial, on reste dans cette dynamique.
Oui, même si j'ai des parents qui m'ont toujours laissé libre, mais je pense que je m'étais fait une croyance que pour être aimé en général, et pour être aimé de Dieu en particulier, il fallait que je sois parfait, et que si je ne l'étais pas, je méritais pas ni l'amour des autres, ni l'amour de Dieu. Donc en fait, j'avais une espèce d'exigence sur moi-même très très forte. C'est comme s'il fallait que j'aille vers Dieu pour gagner son amour. Et puis un jour, ce que je raconte dans mon livre, notamment par la rencontre d'un jeune qui était parti comme ça sur les routes d'Assise, et qui a dit cette phrase qui m'a bouleversé. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi.
C'est la grâce.
Phrase qui a dit « Et Dieu m'a rencontré sur mon chemin. »
Oui, c'est ça. Et vous-même, vous l'avez expérimenté?
Oui, parce que ça, à ce moment-là, ça a été... Il y a un peu d'émotion quand j'en parle, parce que c'était de me dire, mais au fond, est-ce que j'ose croire que sans que je donne sans que je sois parfait quelque part, est-ce que j'ose croire que Dieu puisse me rencontrer gratuitement, rien que pour moi, rien que par un amour gratuit? Et au fond de moi-même, je ne le croyais pas. Et c'est là où j'ai vécu cette démarche de vraiment crier vers Dieu en disant, mais écoute, c'est si ton amour, si tu existes, manifeste-toi à moi. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est j'ai été rencontré par lui gratuitement. Ça a changé.
À plusieurs reprises, d'ailleurs, vous le dites dans votre ouvrage, à plusieurs reprises, à des moments forts, des moments difficiles, quand celle qui sera votre épouse a un accident, il y a des remises en cause, mais il y a aussi des cris et il y a des réponses qui sont données. Et ces réponses, elles jalonnent tout votre parcours. Et en même temps, vous redites bien aussi que la grâce de Dieu, ce qui se passe dans la vie des hommes, est aussi le fruit des rencontres et du travail en commun. C'est pas simplement Dieu qui claque des doigts et qui permet la réussite d'une entreprise, d'une vie familiale ou d'une vie unifiée d'hommes.
Oui, c'est comme ça que moi je peux dire, je crois en Jésus-Christ qui est un Dieu incarné, qui a travaillé à Nazareth, qui a rencontré des personnes, qui a connu la souffrance, qui a connu le doute. Si vous voulez, ça c'est toute ma vie également. Et ce que je raconte dans mon livre, c'est que c'est très souvent quand j'arrive dans des impasses, un petit peu un moment où je ne sais plus quoi faire, ou des souffrances ou des angoisses qui me paraissent insolubles, que... j'accepte ma propre vulnérabilité finalement, où j'y consens, parce que j'ai pas le choix souvent, mais j'accepte à ce moment-là de lâcher prise et de dire au moment où je ne sais plus,
je te demande
ta grâce, parce que moi je ne sais plus, et de manière très évidente des réponses ont été apportées. Et c'est souvent après que je comprends.
Et New York, justement, c'est ça. Vous êtes confronté à ce conflit, conflit d'adolescent, parce que c'est vraiment, d'adolescent ou de jeune adulte, c'est vraiment de 21 ans. C'est vraiment dans ces périodes-là où à la fois on est révolté, on a envie de réussite, sociale. Et quand vous arrivez à New York, vous avez ce conflit intérieur qui se produit entre le décalage de ce dont vous avez envie, ce que vous avez expérimenté en criant vers Dieu dans la montagne, et la réalité de ces cours de finance qui finalement sont complètement désincarnés par rapport à ce que vous souhaitez.
Oui, en fait, là, j'ai vécu un énorme tiraillement parce que j'étais en cours de finance internationale. C'était New York de 1985, c'était Milton Friedman, c'était Ronald Reagan, etc. Première page de mon livre, il y avait écrit en gros, le but de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires. je sortais de New York University à côté de Wall Street et je voyais, c'était le New York de 85 qui était très pauvre, très sale. Il y avait des pauvres étalés dans la rue. Et puis, en allant dans le Bronx, je voyais enfin, ces quartiers désertés. Et je me suis dit, mais comment tout ça s'unifie? Et surtout, comment vais-je pouvoir contribuer à améliorer un peu ce monde avec ma formation de finance? Et voilà, et je comprenais pas. Voilà.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de lien entre la finance et l'action que vous mettez. Vous rencontrez les sœurs de la charité, vous l'écrivez dans votre frise. Non, vous ne pouvez pas venir. La mère est là. Et vous comprenez en arrivant, parce que vous insistez quand même.
J'ai appelé trois ou quatre fois.
Trois ou quatre fois, hein, vous insistez lourdement. Vous comprenez que la mère, c'est Mère Teresa qui est là. Vous avez pu échanger avec elle. Comment se produit cette rencontre? C'est une rencontre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La rencontre avec Mère Teresa ou l'action bénévole finalement que vous avez réalisée chez les sœurs de la charité?
Je pense que c'était toute cette période un peu incroyable. Où le point de déclic a été cette première visite et de découvrir Mother Teresa, la mère.
Bon,
et qui est venue vers moi à la fin de la messe pour me dire pourquoi vous êtes là, etc. On a un peu échangé et elle m'a montré sa main. Elle m'a dit, tous les matins, dites-vous, Jesus died for me, voilà, avec
c'est
vos
ça.
Cinq doigts.
Juste en regardant la main.
Et and what can I do for you?
Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Voilà, et en fait, ça a été un peu une porte qui s'est ouverte. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé de les aider à distribuer la soupe populaire, de rendre visite aux premiers malades du sida, dont certains de mon âge. Ça m'a évidemment bouleversé, à tel point que les 4 mois qui ont suivi, j'allais tous les matins à 6h du matin, j'allais dans le Bronx. Puis je revenais à midi, je me changeais et j'allais à côté de New York.
Jusqu'à les imiter, à dormir par terre pour vous associer dans votre chambre de Manhattan.
Je ne pouvais plus dormir sur mon matelas, sachant que les sœurs de la charité et les pauvres dormaient par terre. C'était une période assez particulière, mais ce qui, je pense, m'a forgé un désir d'aller plus loin dans ma vie, je dirais.
Bon, le retour en France, ça a été une chose facile parce que vous viviez quelque chose de fort à New York. Enfin, vous en vivrez d'autres a posteriori, mais vous rentrez en France, le choix est facile, on continue un peu les études, il faut faire son service militaire. On dit toujours qu'on a du mal à atterrir quand on a vécu des choses fortes comme ça.
Ça a été difficile parce qu'après New York, je suis parti étudier en Allemagne. Là, j'étais beaucoup dans une grande université à Cologne, 50 000 jeunes. J'étais seul.
Vous expérimentez la solitude.
Et puis du coup, un peu le non-sens après cette plénitude d'expérience. Et là, à nouveau, un peu au fond du trou, j'allais dire, de chercher ce sens. C'est comme si je crois que je suis quelqu'un qui n'est jamais renoncé à aller trouver le sens et à secouer l'arbre jusqu'à ce que les fruits tombent. Et bon, je raconte dans mon livre une rencontre étonnante, là aussi, avec le cardinal de Santiago du Chili, un ancien ministre de l'économie, qui m'ont ouvert la porte à dire un peu mon souhait et finalement, c'est construit une coopération. Je suis parti au Chili dans cette banque de développement créée par le cardinal et dirigée par cet ancien ministre. Et puis ça a été le départ d'une nouvelle aventure de cette année au Chili.
Ouais, une année que vous n'avez pas fait seul d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un compère qui est là dès le départ et qui a permis aussi de construire cette.
Voilà, je suis parti avec Laurent Marbaché, qui est un ami d'HEC très cher, et puis également deux autres agronomes. Et puis, peu de temps après, sont venus d'autres, dont une fille, Marianne, qui est devenue mon épouse. Je remercie Marianne au passage, parce qu'elle a quand même accepté que je dévoile une partie de notre intimité.
Vous la remerciez beaucoup dans l'ouvrage. Elle sent qu'il y a une forte présence.
Je dois énormément. Et c'est vrai que même dans ce que je fais pour Armand aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire sans elle.
Alors, le microcrédit au Qantigo, c'est tout nouveau. Mohamed Younous vient de publier quelques écrits, quelques essais sur la question. Il n'est pas encore prix Nobel à ce moment-là. Vous en avez quand même rencontré deux, hein, Mère Teresa et Mohamed Younous. Je ne sais pas si vous en avez rencontré d'autres depuis. Mais ceci étant, il vous inspire. Vous lui écrivez, vous lui écrivez tous les deux.
Oui, c'est Laurent qui lui a écrit et puis qu'on a reçu une lettre assez étonnante, et je me rappelle de cette phrase étonnante de Mamenius qui dit en fait, dans tout homme porte en lui un trésor, mais que souvent la société ne lui a pas permis de dévoiler. Il nous appartient de lui donner les moyens de révéler ce trésor au monde.
Alors comment on lance une politique de microcrédit? Vous expliquez très très bien dans le bouquin que les débuts sont un peu arides, hein. Vous ne faites pas ce que vous vouliez faire, vous vous emportez un petit peu, emportement qui sera couronné de succès, puisque finalement à un moment donné on vous laisse à tous les deux carte blanche pour essayer de faire quelque chose et vous créez et personne n'y croit, et comme on n'en a pas du tout entendu parler avant, qu'est-ce que ça a permis concrètement parlant, ces banques de microcrédit, et comment vous y êtes pris, comment vous avez testé, parce qu'il y a eu de l'expérimentation dans tout ça.
Ben alors déjà, il y a eu une conviction, c'est que il fallait que la banque évolue. La banque, il y avait 400 000 micro-entrepreneurs au Chili qui employaient la moitié de la population active chilienne. Et en fait, aucune banque traditionnelle ne prêtait aux micro-entrepreneurs. Ils ne pouvaient obtenir de l'argent que par les usuriers, avec les gangs derrière, etc. Donc c'était humainement inacceptable et économiquement stupide. L'exemple de Mohamed Yunus et de la Grameen Bank nous a montré que c'était possible. Et donc on a eu envie de le faire. Laurent a étudié le principe. Et puis l'un et l'autre, on a vécu des expériences à titre personnel d'octroi de crédit à des micro-entrepreneurs ou des personnes pauvres, et de voir l'impact que ça pouvait avoir dans leur vie, comment ça transformait complètement leur vie. Et donc à ce moment-là, ben on s'est dit « on y va ». On n'avait effectivement pas d'argent et il y a eu un peu un trade-off, c'est-à-dire que notamment grâce à des amis chefs dirigeants d'entreprise en France qui ont réuni tous leurs amis, on avait 23, 24 ans, hein, donc c'était un peu avec l'audace de la jeunesse. Et on allait voir ces gens-là, on disait « écoutez, nous on est prêts à donner plusieurs années de notre vie, mais on n'a pas d'argent. Vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas de temps. »
Donc donnez-le nous.
Vous donnez de l'argent pour ce projet et nous on donne de notre temps. Et ça a été notamment une rencontre assez étonnante que je raconte dans le livre avec un homme qui s'appelle, que j'honore à travers ce témoignage, qui s'appelle Kaki Janton, qui était le numéro 2 du groupe Total à l'époque, directeur financier, et qui après nous avoir entendus nous a dit « écoutez, voilà, moi je cherchais à donner un sens à la deuxième partie de ma vie professionnelle, donc de ma retraite. Maintenant, après vous avez entendu, j'ai trouvé. Donc vous repartez au Chili, et si ce n'est pas mon entreprise qui donne l'argent, ce sera moi. » Et il nous a permis de financer toute l'expérience pilote, et grâce à lui, on a pu démarrer.
Alors ça, aujourd'hui, ça continue encore, cette expérience de cette banque Qantigo?
Alors elle a fonctionné de façon indépendante pendant 25 ans, et puis après, elle a été rachetée ou acquise par une compagnie d'assurance sociale. Mais on n'a plus de lien personnel, mais surtout l'impact pour nous, c'est qu'à ce moment-là, aucune banque n'y croyait, se disait... Les
particulièrement celles qui vous avaient fait venir au Chili.
Voilà, les gens pauvres ne vont pas rembourser, c'est trop coûteux, etc. Or, nous avons eu dans l'expérience pilote, quand même sur 2-3 000 crédits, 98% de taux de remboursement, c'est-à-dire supérieur à la banque commerciale. Et d'un seul coup, toute la mentalité a changé. Il y a 5 banques classiques qui se sont mis à faire du microcrédit en se disant « mais on est en train de rater un marché ». Et ils sont commencés à se lancer. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était être un signe, montrer que c'était possible et faire évoluer le monde bancaire. Et ça a été notre grande satisfaction, c'est que ça a été fait.
Qu'est-ce que vous retenez du Chili qui vous mène encore aujourd'hui dans votre vie d'homme, de dirigeant d'entreprise?
Ben pour moi, le Chili, d'abord, c'est un pays de la bienveillance. Si vous voulez, les Chiliens sont des gens qui ont une tendresse, qui sont joyeux, qui n'hésitent pas à exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Moi, ça m'a fait extrêmement de bien parce que j'étais plutôt très rationnel. Et donc, de me réconcilier avec cette partie plutôt émotionnelle et de me rendre compte qu'exprimer ses sentiments, ce n'est pas de la faiblesse, c'est au contraire être humain. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est le courage des micro-entrepreneurs. Je pense qu'ils ont réveillé mon être entrepreneur. En fait, je ne savais pas que j'étais entrepreneur.
Vous alliez plutôt vers de la fonction financière,
oui,
dans des grosses entreprises.
Devenir cadre dans une boîte.
Ce qui est d'ailleurs le sens de la réussite dans les années 80. Ce qui aujourd'hui a un petit peu évolué d'ailleurs.
Voilà, mais je me rappelle, il y avait une filière entrepreneur HEC. On regardait ça un petit peu avec amusement à l'époque. Donc c'est la création de cette banque. Ce qui nous a poussé à créer cette banque, c'est répondre à un défi. C'est quelque chose qui était criant. Il fallait, si ce n'était pas nous qui créions cette banque, personne n'allait le faire à ce moment-là. Ça a réveillé ma fibre entrepreneur. Ça, c'est la deuxième chose. Le courage aussi, de la prise de risque de ces personnes était époustouflant. Et puis, je dirais l'ouverture à des milieux différents, notamment dans les relations sociales. Aujourd'hui, je pense que ça m'aide vraiment.
New York, c'est la déflagration. Est-ce qu'on peut dire que le Chili, c'est la fondation?
Oui, je pense que pour moi, le Chili, je dis, ça a été, alors dans un langage un peu religieux, mon temps de noviciat laïque.
C'est ça. Sept ans
d'enracinement, d'être prêt aussi à lâcher une carrière, parce que tous les ans, certains me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vas mettre ta carrière en l'air, etc. Et je sentais que je devais rester. Ça a été des rencontres extrêmement puissantes, extrêmement fortes.
Je vous propose, Hubert, qu'on fasse une petite parenthèse dans notre entretien avec Anthony Martin Smith, qui est entrepreneur de l'année 2020 à Shop. Et puis, je vous ferai réagir un peu. Ce sera dans la deuxième partie de cet échange. On verra justement votre retour en France et puis évidemment Armor et puis la suite peut-être.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, on fait une petite pause dans notre entretien avec Hubert de Boisredon, qui est notre invité de cette semaine dans l'écho des solutions. Avec vous, Anthony Martin Smith, c'est comme ça qu'on prononce exactement d'ailleurs ?
On prononce Martin Smith, mais Martin Smith me va aussi.
Alors, Anthony Martin Smith, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez été élu en 2020 entrepreneur de l'année par HUP. HUP, c'est une association qui accompagne et qui porte aussi la promotion des dirigeants d'entreprises qui sont porteurs de handicap. Vous êtes vous-même handicapé depuis le plus jeune âge jusqu'à la perte de la vue qui a été finalement un peu l'aboutissement de votre parcours de santé chaotique, c'est ça, Anthony Martin ?
Je dirais pas que je suis handicapé, parce que je me vois jamais comme ça. Je suis handicapé dans le regard des autres. Et le regard, effectivement, c'est bien, en tout cas, moi, ce qui me pose problème au quotidien, depuis l'âge de, on va dire, de ma naissance, parce que c'est la cause, mais depuis l'âge de mes 7 ans, véritablement, où ça, c'est un poids dans mon quotidien.
Alors, c'est un poids dans le quotidien, mais ça vous a pas empêché d'entreprendre. Vous avez un parcours complètement éclectique. Vous avez été DJ, vous avez été sportif de haut niveau dans l'équipe paralympique de judo, dans l'équipe de France de judo paralympique. Vous êtes aujourd'hui dirigeant d'entreprise, et je mets une parenthèse avec un S au pluriel, hein, puisque vous êtes dirigeant de très nombreuses entreprises. Vous êtes associé dans pas mal d'activités. Quand on dit tout ça, qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'entrepreneuriat, Anthony Martin Smith ?
Je crois qu'à partir du moment où vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, dans mon cas c'était des problèmes de vue, eh bien, la vie devient un combat, elle a une saveur particulière, c'est que chaque pas que vous faites en avant, c'est finalement le goût de la victoire, de la réussite, mais aussi celui de l'échec. Et qu'est-ce que je fais de l'échec dans ma vie ? Eh bien, j'apprends. Vous connaissez cette célèbre expression, fais pas d'erreur, j'apprends. Dans mon cas, ça a été ça mon moteur, et c'est comme ça que j'ai entrepris. Je suis finalement non pas un entrepreneur au sens de l'entreprise, je suis un entrepreneur de ma vie. Et j'ai décidé de la prendre en main à partir du moment où j'ai compris que la déficience visuelle qui m'impacte, finalement, me prenait la destinée de ma vie. Donc je n'acceptais pas, et je n'ai jamais accepté, je n'accepterai probablement jamais que la vie m'impose son rythme. Moi, je veux me permettre l'avenir, je veux me permettre ma vie.
Alors, pourquoi être un serial entrepreneur ? Parce que quand même, quand on voit tout ce que vous avez fait, en moins de 2 ans, vous avez créé... Alors, vous vouliez lancer une ligne de parfums de luxe, et puis finalement, vous avez lancé plutôt une ligne de gel hydroalcoolique. Vous avez une société sur laquelle aujourd'hui vous innovez pour accompagner les entreprises dans leur communication auprès des personnes en situation de handicap, déficience visuelle, peut-être muet, sourd ou autre. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût ? Parce que vous disiez en effet que c'était pour prendre en main votre vie, mais souvent dans les parcours d'entrepreneurs, il y a des déclics, il y a des personnalités qui sont marquantes et qui donnent aussi cette envie d'entreprendre.
Moi, ce qui me donne l'envie d'entreprendre, c'est finalement quand je constate une problématique, c'est d'aller la résoudre. Donc l'entreprise, pour moi, est une solution, comme l'association peut en être une autre, comme l'investissement civique, les choses que individuellement on peut faire pour faire en sorte que notre monde soit meilleur. Et dans mon cas, eh bien, l'entrepreneuriat, c'est un mode de fonctionnement. L'entreprise est un véhicule, et c'est un véhicule pour les ambitions qui sont les miennes. Donc quand je constate quelque chose problématique, eh bien, j'ai envie d'adresser évidemment une solution qui est pas une solution universelle, qui est la mienne. Alors, j'essaierai à chaque fois de faire en sorte qu'elle soit universelle, parce que mon intérêt et mon envie, c'est de toucher tout le monde. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu mécanique. J'ai une idée, j'ai un projet. Est-ce que ce projet est viable ? Est-ce que j'ai l'équipe avec moi pour la porter ? Est-ce que j'ai des rencontres ? Parce que c'est ça aussi qui nourrit mes projets. Ce sont les rencontres avec des femmes et des hommes exceptionnels. Et à partir de là, je me dis oui, j'y vais ou non, j'y vais pas. Parce que j'ai plein d'idées, comme tout le monde. J'ai pas le monopole de l'idée.
Comment...
Et à un moment, ben, voilà, on y va.
Alors comment aujourd'hui il faudrait continuer, promouvoir, accroître la promotion finalement de l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap? Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on enferme les personnes en situation de handicap qui ont un travail dans les ESAT, dans des métiers protégés, dans des quotas dans les entreprises. On parle assez peu des entrepreneurs et vous êtes finalement assez nombreux, soit handicapés de naissance, soit étant devenus handicapés au cours de leur vie.
Déjà, je n'opposerai pas les milieux protégés comme les ESAT, les entreprises adaptées, ou plus ou moins, plutôt aux travailleurs indépendants handicapés que je suis et que d'autres sont également, et près de 80 000 en France, en tout cas depuis qu'on dénombre ce chiffre. Je n'opposerai pas cela parce que le milieu protégé est tout aussi important que la prise en main individuelle de son destin, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. Dans l'entrepreneuriat en situation de handicap, il y a plusieurs facteurs. Il y a ceux qui veulent vraiment entreprendre. Il y a ceux qui, malheureusement, n'ont pas le choix d'entreprendre, n'ont pas le choix que d'entreprendre parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société telle qu'elle est conçue. Et puis, la notion de quota que vous énonciez dans les entreprises, bah, parfois elle est un peu nécessaire. Il faut un peu de discrimination positive, quand bien même je la déplore, pour essayer de dire hello. On est là. Et donc, voilà, j'opposerai pas tout ça. Maintenant, ce qui resterait à faire pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs en situation de handicap, pour qu'il y ait plus de personnes qui ont envie d'entreprendre quand elles sont en situation de handicap, c'est de lutter contre le fatalisme qui dirait « Non, je suis en situation de handicap, je ne peux pas entreprendre ». Enfin, cette année, vous allez le voir, on a des profils qui sont absolument incroyables. J'ai pu faire partie du jury de sélection des trophées H-Up Entrepreneur. Je suis impressionné par le niveau de résilience, la capacité de rebond, la capacité d'investissement individuel qu'on a à travers les profils qui nous ont été présentés. Donc, je crois que c'est une affaire surtout personnelle. Et puis, la société doit offrir et permettre l'entrepreneuriat, mais à quiconque, finalement.
Anthony Martin-Smith, merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On revient tout de suite avec Hubert de Boisredon, qui, je suis certain, va trouver des similarités avec son parcours que lui-même a eu. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
RCF, l'écho des solutions.
Voilà, on a entendu Anthony Martin-Smith. Comment vous réagissez, Hubert de Boisredon? Je pense qu'il y a des choses qui rejoignent un peu vos aspirations de dirigeant et d'homme aussi, peut-être.
Ah oui, le témoignage d'Anthony Martin-Smith résonne beaucoup en moi. D'abord, je suis émerveillé par ce courage, ce regard positif sur la vie, au cœur et malgré un handicap. Et puis, il y a cette phrase qu'il a dite, c'est finalement, quand je vois un problème à résoudre dans la société, ben je le résous, et c'est ça l'entreprise, c'est ça être entrepreneur. Je pense que c'est la meilleure définition qui soit de l'entrepreneur, quelqu'un qui veut résoudre des problèmes de société et qui utilise un moyen qui est l'entreprise pour ça.
Vous faites, on va parvenir, et si les gens veulent travailler un peu plus votre ouvrage, ils pourront l'acquérir. Vous revenez en France après le Chili, hein. C'est les gros groupes, c'est Rhône Poulenc, c'est Rodia. Vous faites l'expérimentation de ces gros groupes. Vous vous y épanouissez, en même temps, c'est pas forcément là où vous sentez que vous êtes attendu.
En fait, je suis reconnaissant de cette étape. Ça a été 11 années dans ce grand groupe industriel. D'abord, 7 ans pratiquement en Asie, très heureux, beaucoup d'autonomie, la rencontre d'un
dirigeant qui vous a marqué en termes de management.
Ouais, exceptionnel, avec une capacité d'écoute et de bienveillance qui m'a vraiment beaucoup appris. J'ai beaucoup reçu de lui, qui a ancré une confiance. Ça a été aussi la découverte de la Chine qui s'ouvrait
au monde à ce moment-là.
Donc la possibilité de mener des acquisitions d'entreprises chinoises en les négociant avec les membres du Parti communiste chinois.
Puis en expérimentant aussi le modèle communiste aussi, même si on s'en éloignait dans le libéralisme, restait quand même un mode de fonctionnement très spécifique à la Chine. Hein. On ne fait pas des affaires avec les Chinois comme on en fait avec les Américains.
Voilà, et en même temps, quittant mes préjugés, c'est-à-dire que je pensais que ça serait impossible de travailler avec le Parti communiste, et en fait, j'ai découvert des gens extrêmement pragmatiques finalement, parce qu'une entreprise qui venait en Chine, c'était des impôts qui arrivaient, c'était la municipalité qui vivait mieux, etc. etc. Donc très passionnant. Le retour après en France était plus difficile, notamment avec des patrons, des dirigeants qui étaient plutôt dans une logique de vouloir presser une pression très très forte.
Le côté années 80-90 qu'on n'aime pas en fait, qui a un peu décrié cette période de libéralisme et on pressure les collaborateurs pour en sortir.
Une vision qu'être dirigeant, c'est être fort, c'est ne pas avoir de sentiments, en me disant voilà, si tu veux réussir, il faut que tu sois insensible, il faut que tu sois dur, il faut que tu n'hésites pas à prendre des décisions difficiles, qu'il pratiquait d'ailleurs. Mais où la personne humaine en tant que telle et la rencontre n'a pas vraiment de valeur. C'est-à-dire que le collaborateur n'a de sens que parce qu'il produit, par son efficacité, mais pas parce qu'il est.
Enfin, d'un autre côté, vous expérimentez deux choses dans le grand groupe. Le manager extraordinaire, source d'inspiration, qui vous inspire peut-être encore. Oui. Et puis le manager qui est source de non-inspiration et qui vous dit, qui ancre en vous ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voudrez pas faire plus tard peut-être.
Qui me fait subir un management par la pression et par la peur, qui s'assimilait parfois à du harcèlement. Et qui a ancré en moi le fait qu'à un moment donné, bon, il y a eu différentes manœuvres qui ont fait que j'ai quitté ce groupe et qui a ancré en moi le fait de dire voilà, être un grand dirigeant, ce n'est pas ça. Être un grand dirigeant, c'est quelqu'un qui fait grandir l'entreprise, mais qui fait grandir ses collaborateurs et par notamment en transmettant de la confiance. Et c'est ce que j'ai, en tout cas, me suis fixé comme cap, voilà, avec mes faiblesses, avec mes défauts, mais en tout cas. De me dire, je veux être un dirigeant qui pratique le management par la confiance.
Je rembobine un petit peu, quand vous arrivez du Chili, avant d'aller dans des grands groupes, vous vous reposez la question de l'entrepreneuriat, où c'est assez naturellement que les offres se font et que vous repartez
Quand je suis revenu du Chili, je me suis dit, j'avais fait de la banque de microcrédit, donc la logique, c'est d'entrer dans la banque. Et puis en fait, j'ai eu 5 offres de banque, donc c'était très bien. Mais il y a quelque chose qui ne m'allait pas, et notamment, il y a eu un entretien qui a été crucial pour moi. Je me rappelle, le recruteur m'a dit, alors vraiment, il y a une chose qu'on vous demande, monsieur de Boisredon, c'est si vous venez dans notre banque, c'est de ne jamais prendre aucun risque. Et là j'ai compris.
Tout était dit.
Et je trouve ça très bien pour des banquiers, mais j'ai compris que j'étais avant tout un entrepreneur et
c'est
pas
ça.
Un banque.
Vous partez vers le groupe Rodier en 2004, donc c'est l'arrivée à Nantes. Une arrivée alors assez étonnante, mais de toute manière, au fur et à mesure de la lecture de votre parcours, je pense que ça ne pouvait pas être autrement. C'est finalement presque un pari, parce que vous arrivez, si j'ai bien compris, hein, on vous dit, bon, le dirigeant est un homme politique, il veut surtout pas qu'on sache qu'il recrute, c'est un peu le foutoir dans l'entreprise, donc vous allez pas y aller tout de suite, on veut votre réponse avant que vous y alliez, et finalement, c'est encore une fois, alors vous parliez de confiance, mais là c'est aussi une confiance que vous mettez, et c'est Marianne qui vous dit, vas-y, tu vas t'épanouir, tu vas t'éclater
en
à Nantes.
En fait, j'avais à ce moment-là, on s'était mis d'accord avec Marianne, mon épouse, que ayant passé 7 ans en Asie, elle était professeure d'économie au Centre Madeleine d'Annelou à côté de Rueil, et je lui ai dit, on reviendra en région parisienne pour que tu puisses continuer, toi, ton métier. Et le chasseur de tête, je cherchais un job, m'a dit, voilà, il y a la possibilité d'une entreprise, on cherche quelqu'un pour fédérer des équipes autour d'un projet. J'ai senti que c'était vraiment ça qui me plaisait, mais dès qu'il a dit, voilà, c'est sur la côte ouest, j'ai décliné en disant non, je n'irai pas, puisque c'est pas ce que je me suis engagé à vis-à-vis de mon épouse. Et c'est finalement Marianne qui m'a dit, ben non, mais attends, c'est exactement toi, vas-y, et je trouverai de quoi travailler à Nantes ou autre chose. Et là, donc, j'ai ouvert la porte. Et puis, même si j'avais aucune possibilité d'aller sur place, hein, puisque j'ai jamais vu
le site avant d'arriver,
le site ni personne de l'entreprise avant. Je n'ai eu de rencontre qu'avec les actionnaires, et c'est vraiment la rencontre d'Antoine Ruffnac qui était avec sa famille actionnaire qui, pour moi, m'a
Vous avez rencontré quelqu'un un peu comme les différentes rencontres que vous avez pu faire et qui vous ont convaincu qu'il fallait aller au Chili, qu'il fallait donner un coup de main à New York ou le...
Oui, je le dis sans flagornerie, mais Antoine Ruffnac pour moi est un grand homme politique qui est parti trop tôt. Et je l'ai vu à l'usage, en le côtoyant. On dénigre parfois les hommes politiques, mais là, j'ai vu un homme politique d'une intégrité extraordinaire. Mmh.
Alors, vous arrivez à Nantes, comment ça se passe, les premiers pas? Vous avez une idée, parce que là, vous dirigez une entreprise, donc quelque part, vous prenez la tête d'un groupe qui n'est pas encore le vôtre, qui le deviendra, mais avec vos collaborateurs et salariés. Et tout ça, c'est en commun aujourd'hui. Vous avez une idée du dirigeant que vous voulez être, parce que les premiers pas sont toujours importants pour fixer un petit peu le cap, j'ai presque envie de dire les 3-4 premières heures, les 100 premiers jours, dit-on parfois.
Oui, je jouais gros, d'autant que dans le contexte, voilà, Antoine Ruffnac comme politique, sa famille possédait Hermor, mais lui était dans la politique, il arrive, il me présente aux équipes, et puis quelques, voilà, au cours de la rencontre, il dit voilà, je repars, j'ai un rendez-vous avec Jacques Chirac. Tu te rappelles ? Et je me retrouve donc tout seul dans l'arène, au milieu d'un comité de direction de 16 personnes qui me regardaient un peu comme blanc, enfin comme voilà. Et là, je me suis dit, j'ai peu de temps pour faire la, voilà, pour marquer. Et finalement, là, je me suis jeté en disant, mais voilà, moi, j'arrive, je connais pas l'entreprise, vous êtes là depuis longtemps. Je propose qu'on fasse un tour de table où chacun me dit, voilà, qu'est-ce que vous aimez dans l'entreprise? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va pas? Et puis, ça serait quoi vos idées pour faire progresser? Et ça a été le début pour moi d'un management, ce que j'appellerais participatif, qui est une chose que j'ai tiré de mon séjour au Japon. Vraiment croire que la solution des problèmes est partagée et portée par les équipes, qu'en tant que dirigeant, nous n'avons pas la science infuse de tout et que notre rôle est avant tout d'être un fédérateur, d'être quelqu'un qui va écouter, recevoir, accueillir pour donner la vision, pour tracer la route, oui, mais en s'inspirant et en s'appuyant sur ses collaborateurs.
Dialogue social, c'est quelque chose d'important hein, chez vous. Vous en avez expérimenté le pire et aujourd'hui, vous en expérimentez le meilleur. C'est quoi un dialogue social réussi pour vous, Hubert de Boisredon, dans l'expérience Armor ?
Oui, bah pour moi, un dialogue social réussi, c'est d'abord un dirigeant qui valorise les syndicats, qui en est convaincu de leur rôle et du coup, qui a conscience qu'en fait, ils aiment l'entreprise comme ils l'aiment soi-même et comme l'équipe de direction. Et qu'en fait, c'est important qu'il y ait une altérité dans l'entreprise. C'est un regard parfois différent, parfois qui nous pousse en dehors de notre zone de confort et qui nous challenge. Mais que finalement, quand on se met d'accord et quand on arrive à un compromis, on perçoit, et souvent ça m'est arrivé, de percevoir une solidité comme un ciment extrêmement solide sur lequel nous allions pouvoir construire.
La stratégie d'Armor, à la base, vous l'avez dit, hein, c'est du transfert, c'est du thermotransfert d'impression de transfert thermique. Voilà. Et il y en a un, vous l'écrivez très très bien dans votre ouvrage, vous en avez fait de ce qui n'était pas quelque chose de fort, de valorisé, vous en avez fait finalement une marque et quelque chose d'extrêmement valorisable, c'est le recyclage, l'économie circulaire des cartouches d'impression d'encre, qu'elles soient laser ou autre.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, le savoir-faire d'Armor, il y en a deux. Il y a deux savoir-faire. C'est l'induction de couches minces sur film mince. C'est ce qui a fait qu'Armor était le leader du papier carbone, des rouleaux de fax et aujourd'hui des rubans transfert thermique. Et c'est cette technologie qu'on utilise pour réinventer les panneaux solaires en film photovoltaïque souple, par exemple. Et puis le deuxième savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le remanufacturing, le reconditionnement industriel. Et en 2007-2008, avec la montée en puissance de la conscience du
réchauffement
de la planète, de l'écologie, je me suis dit, il y a un domaine qui sont les cartouches d'impression laser. Une cartouche, c'est 1 kilo. Il y a 140 millions de cartouches laser vendues par an en Europe. C'est 140 000 tonnes de matière et à peine 15-20% sont recyclées. Donc il y a un vrai enjeu écologique. Et nous avons décidé que 100% des cartouches que nous fabriquerions seraient remanufacturées. On a créé une marque très forte qui s'appelle Owa.
Le cercle en japonais.
Hein. Voilà. Et en fait, ce que nous souhaitons, c'est devenir un pionnier industriel, un leader de l'économie circulaire.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites de ce que j'appellerais de l'économie circulaire intégrale, c'est-à-dire que vous associez aussi les personnes en situation de handicap, vous avez conçu la chaîne de production pour que valides et non-valides puissent travailler ensemble et pas les uns dans leurs ESAT et les autres à l'usine, déjeuner ensemble, partager. Et quand je dis intégrale, c'est-à-dire que les cartouches qui ne sont plus recyclables, elles sont finalement recyclées en filaments de plastique pour l'impression 3D. Donc finalement, il y a quasiment, on est à zéro déchet sur cette partie-là à la fin où il y a quand même encore un petit pourcentage.
Le but, c'est vraiment zéro déchet. C'est que
déchet social, humain et
voilà,
matière.
C'est que tout soit réutilisé. Et puis je pense que par rapport aux personnes qui ont un handicap, en tout cas, c'est une vision, c'est que les personnes qui ont un handicap soient pleinement intégrées dans les équipes, notamment sur le site de la Chevrolière où là, pour les rubans transfert thermique, on s'est spécialisé un peu dans l'accueil des personnes sourdes et muettes qui sont parfaitement intégrées à la chaîne. Et si vous allez visiter le site, vous ne verrez pas la différence entre la personne qui parle et voilà, ou
et
la personne
qui
sourde
parle
et
pas,
muette. Et en fait, les uns et les autres sont aussi efficaces, bien sûr.
Et puis, votre grande innovation, mais qui date, hein, vous y travaillez, c'est le film photovoltaïque recyclable. Aujourd'hui, on sait que les cellules photovoltaïques viennent toutes de Chine. Et deuxièmement, elles sont extrêmement polluantes. Là, aujourd'hui, vous avez trouvé, grâce à cette technologie de dépôt de couches fines, un système pour pouvoir produire de l'électricité à moindre coût, mais ça coûte cher. Et quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer ça dans un système plus industriel ?
Voilà, là il s'agit vraiment d'une innovation française de rupture, c'est-à-dire un panneau solaire, c'est 10 à 15 kilos du mètre carré. Là, on a des films qui pèsent 300, 400 grammes, qui peuvent couvrir toute surface exposée à tout type de lumière. Par exemple, on vient de faire en Allemagne des balustrades en verre qui intègrent ce film dans les balcons, enfin, si vous voulez, voilà, qui sont souvent opaques, qui couvrent 10 à 15% des besoins en électricité
des appartements. Oui.
Voilà, et j'aimerais, c'est vrai que c'est une vision, un rêve, que ça se répande partout. En fait, il y a des tas de surfaces inutilisées. Et je pense que plutôt que d'aller couvrir des surfaces agricoles ou abattre des forêts pour mettre des panneaux, on pourrait déjà couvrir toutes les surfaces bétonnées et les toits fragiles qui existent en France et en Europe.
Pascal Demurger, que vous connaissez certainement, oui. Hubert a sorti un ouvrage, l'entreprise du 21e sera politique ou ne sera plus. Vous êtes d'accord avec cette assertion que l'entreprise a une place politique à prendre ?
Oui, je le pense. Je pense que l'entreprise a un rôle sociétal. On ne peut pas se dire on s'occupe que de son entreprise et ce qui se passe dans la société ne nous intéresse pas. On a un rôle d'intégration. L'entreprise est un des rares lieux qui existent encore pour faire société, qui permet l'intégration des personnes, qui permet un mélange et un brassage de personnes de milieux différents. Donc en ce sens-là, oui, je crois que l'entreprise a un rôle social. Et puis en plus, en créant de la richesse et en créant du travail, elle peut apporter une espérance.
Vous avez mis, en rachetant IMAC, vous mettez l'entreprise sur des rails en la positionnant comme leader mondial. Est-ce que ça veut dire que Hubert de Boisredon a envie d'aller ailleurs, de regarder ailleurs, de, non pas de partir, mais de se consacrer sur de nouvelles activités ?
Oui, en fait, dans le livre, j'explique que j'ai été très interpellé par la rencontre de différents jeunes. Donc, je parle de Jean, ce jeune béninois, et Louis, ce jeune français engagé aux Philippines auprès des pauvres, dont le regard très libre en fait m'a interpellé, m'a permis de réfléchir sur ma vie en disant est-ce que je suis prêt à me remettre en question, est-ce que je suis prêt aussi en tant que dirigeant à bouger, à continuer d'être en mouvement. Et puis à partir de là, à partir d'une amitié qui a cheminé, d'un travail ensemble, et notamment est venue l'idée de co-créer un cabinet de conseil en leadership pour aider d'autres dirigeants et des porteurs de projets eux-mêmes à se mettre en mouvement et à rentrer dans plus de cohérence et d'unité dans leur vie, qui s'adresse à des personnes qui ont envie de se donner, jeunes ou moins jeunes, mais qui ne savent pas trop comment. J'ai envie de me donner, j'ai envie de contribuer à transformer mon organisation, le monde autour de moi, mais comment je fais ? Et donc, on souhaite agir sur ce moteur pour en fait accompagner les personnes. Et finalement, c'est ce que je veux faire chez Armor. Donc, ce n'est pas me désengager d'Armor, au contraire, mais c'est être encore plus efficace en étant plus au service des dirigeants des différentes activités et de les accompagner pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils aillent encore plus loin dans leurs projets et que du coup, de cette manière-là, Armor grandisse encore plus.
Est-ce que vous avez jamais remarqué que l'entreprise que vous avez rachetée, Armor, se rapproche du mot Amor ?
Oui, on me le dit de temps en temps. On me le dit de temps en temps, mais c'est vrai que, bon, je pense que ça, c'est une coïncidence, mais je pense, vous savez, j'ai été très marqué par un grand dirigeant d'entreprise aussi, alors j'en parle pas dans mon livre, mais qui était le numéro 2 du groupe Alcatel-Alstom à l'époque, directeur général qui s'appelait François Delage-Demeux, et qui est mort malheureusement, mais qui a été un peu un mentor pour moi, un exemple, et qui disait souvent, il faut dans l'entreprise unir l'amour et la compétence. Il disait, s'il y a l'amour sans compétence, c'est du romantisme, et ça va nulle part, et c'est un peu du sentimentalisme. La compétence sans amour, c'est de la rigidité, ça n'inspire personne. Et je pense que unir l'amour et la compétence, voilà, c'est quelque chose en tout cas qui me tient à cœur, que j'essaye pour ma petite part de vivre et que j'aimerais qu'Armor transmette.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Hubert de Boisredon. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en ce week-end de la Toussaint, en espérant que ce témoignage va vous permettre d'abord vous donner l'envie de lire l'ouvrage hein, « L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé aux éditions MAM ». Et en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous ne changerons pas totalement de sujet puisqu'on parlera du travail, en quoi est-ce que la Covid-19 a impacté la question du travail, aussi bien dans nos relations, dans nos manières de travailler, mais aussi sur nos manières de recruter. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts dédiées. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end de la Toussaint. Nous prierons pour vous. À très bientôt. Au revoir.